Philosophie politique par le Père Philippe, Saint-Joseph, le 5 février 85.
Nous allons entrer dans le livre 3 de la politique d'Aristote, c'est-à-dire la manière dont Aristote envisage ce qu'est le citoyen. Je vais vous lire le texte d'Aristote, parce que comme ça, je suis sûr que vous l'avez au moins entendu une fois. C'est déjà quelque chose. Pour qui examine, en ce qui concerne la constitution, quelle est la nature et quels sont les caractères de chacune de ses formes? La première question, en quelque sorte, qu'il doit considérer a rapport à la cité, à l'État. Quelle est, en fin de compte, la nature de l'État? Vous voyez, c'est assez complexe, hein, c'est pas si facile que ça de comprendre ce début. Nous n'avons pas encore vu les constitutions, on les verra après. J'ai hésité de les voir avant ou après. Et alors, ce qui est très curieux, et c'est là où il y a toute une astuce très curieuse d'Aristote, qui n'est pas si facile que ça à bien comprendre, c'est qu'au fond, Aristote cherche quelle est la meilleure des constitutions. C'est toujours son but. Hein. Analyser les diverses formes de constitution, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est de voir quelle est la meilleure forme de constitution. Alors, pour déterminer quelle est la meilleure forme de constitution, Aristote va nous montrer que le citoyen, il est éduqué par la constitution, puisque tout État a comme but la païdéia, l'éducation. Au terme de la politique, hein, ne l'oubliez pas, nous ne verrons pas, parce que nous n'avons pas le temps, mais vous avez l'éducation. Alors, Tricot met l'éducation dans l'état idéal, c'est pas ça du tout, c'est pas l'état idéal, c'est l'état le meilleur, c'est pas l'état idéal. L'état idéal, ça c'est Platon, c'est l'eidos. Vous voyez, toute la politique se termine par l'éducation, parce que pour Aristote, un État a comme charge principale d'éduquer les citoyens. Ça, c'est tout à fait grec. Alors, chaque forme d'éducation dépendra de chaque forme de constitution. Comment découvrir la meilleure forme de constitution? C'est lorsque coïncidera dans le citoyen le bon citoyen et l'homme vertueux. Le bon citoyen qui est dépendant de la législation. La mesure par laquelle on découvre le bon citoyen, c'est qu'il est dépendant de la législation qui s'amesure. Et on éduque en fonction de cette mesure. Et puis, il y a l'homme honnête. Est-ce la même chose, le bon citoyen ou l'homme honnête? Si vous êtes en présence de la législation la plus parfaite, vous pouvez dire que le bon citoyen et l'honnête homme coïncident. Oui, il fallait découvrir ça. Il fallait découvrir que, de fait, le bon citoyen et l'homme honnête, ça coïncide. C'est deux choses qui doivent coïncider. La bonté d'un citoyen, c'est d'être en conformité avec la législation, qui joue le rôle de mesure. Donc on est bon citoyen quand on est correctement citoyen, quand on est un citoyen qui fait exactement ce qu'il doit faire. Alors on est un bon citoyen, on obéit aux lois. C'est une bonté légaliste, si vous voulez. Bon, il peut y avoir une différence entre le bon citoyen et l'honnête homme si vous êtes en face de la tyrannie. Quand vous êtes en face de la tyrannie, on est un homme qui respecte la tyrannie. Et on est un très mauvais homme. Donc, on voit toute la distance qui existe entre le bon citoyen et l'homme honnête quand on est en présence d'une législation qui est mauvaise, qui est corrompue. Tandis qu'au contraire, si on est en présence d'une législation qui est parfaite, la meilleure qui soit, alors la meilleure qui soit, c'est la coïncidence entre le bon citoyen et l'homme honnête. Oui, et c'est pour cela que pour saisir bien qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est que la législation la plus parfaite, il faut saisir qu'est-ce que c'est que le citoyen. Si on saisit qu'est-ce que c'est que le citoyen et le bon citoyen, on va saisir par le fait même la possibilité d'une législation parfaite, la meilleure qui soit, et enfin, l'honnête homme, c'est l'aspect éthique. L'éthique personnelle. Ici, je suis au niveau politique. Nous avons toujours vu qu'Aristote mettait une distinction entre l'esprit politique et l'esprit éthique. C'est un des gros problèmes. Quelle distinction y a-t-il entre le point de vue éthique et le point de vue politique? Pour Platon, c'est très simple. Puisque le point de vue de l'honnête homme, le point de vue éthique personnel, est enveloppé de l'éthique politique. On a cette vision très nette. Et chez Platon, c'est que le point de vue politique absorbe le point de vue éthique personnel. L'éthique personnelle est à l'intérieur de la politique. C'est les petites lettres, la justice, écrite en petites lettres et ici, écrite en grosses lettres. Et donc, c'est tout simplement la répercussion, le miroir, le citoyen, le miroir de l'État. Ça ne peut pas être autrement. Tandis que pour Aristote, attention, Aristote commence par l'éthique personnelle. Donc l'éthique personnelle, elle a son unité, elle a sa finalité. Comment va entrer la politique là-dedans? La politique, le point de vue éthique, le point de vue éthique personnel, puisque ça touche la finalité. Ici, on est au niveau de la cause exemplaire. Au niveau de la cause exemplaire, la politique est plus que l'éthique personnelle. Tandis qu'au niveau de la finalité, c'est l'inverse. Au niveau de la finalité, l'éthique personnelle est seule à nous donner la vraie finalité. La contemplation et l'amitié. La contemplation et l'amitié dépassent. Alors, on va essayer de comprendre la place exacte du politique à l'intérieur de l'éthique personnelle. On a presque le schéma inverse. Et d'autre part, le point de vue politique, sur certains aspects, va dominer l'éthique personnelle. Alors on pourrait dire qu'on a comme deux cercles. À un certain moment, c'est l'éthique personnelle. C'est très curieux, c'est très très curieux de voir les échanges sous un aspect particulier. La politique est plus que l'éthique personnelle. Sous un autre aspect, et l'aspect principal, l'éthique personnelle dépasse l'aspect politique. Ce serait très intéressant de mettre dans deux colonnes, vous voyez, les deux aspects. Quels sont les aspects sous lesquels l'éthique personnelle l'emporte sur la politique et quels sont les aspects sur lesquels la politique l'emporte sur l'éthique personnelle? Quand je cherche qu'est-ce que c'est que le citoyen, je suis en présence de ce tout et l'élément, c'est le citoyen. Le citoyen, c'est un élément par rapport à ce tout. Ce tout politique. Oui, mais le citoyen, il est un homme. Et l'homme, en tant qu'homme, est-ce qu'il n'est pas plus que le citoyen? Est-ce que je peux être un bon citoyen si je ne suis pas un honnête homme? C'est toutes ces questions-là qui sont sous-jacentes dans le livre 3. C'est pour ça que ce livre 3 est si intéressant et il est difficile. Vous voyez comment Aristote commence. « Pour qui examine, en ce qui concerne la constitution, quelle est la nature et quels sont les caractères de chacune de ses formes ?» La première question, en quelque sorte, qu'il doit considérer à rapport à la cité, à l'État, quelle est, en fin de compte, la nature de l'État, en fait. C'est là un sujet controversé. Les uns prétendant que la cité a fait tel acte, d'autres, au contraire, disant que ce n'est pas la cité, mais l'oligarchie ou le tyran. Ensuite, nous voyons l'activité de l'homme d'État et du législateur, tout entière rapportée à une cité. Enfin, la Constitution n'est rien d'autre qu'une certaine manière d'organiser ceux qui vivent dans la cité. Mais puisque, à son tour, la cité appartient à la classe des choses composées, semblable en cela à n'importe quelle autre de ces réalités qui sont des touts, mais des touts formés d'une pluralité de parties, il est évident que le citoyen, qui doit d'abord être l'objet de notre enquête, la cité étant une collectivité déterminée de citoyens. Vous voyez donc toutes ces choses qui sont impliquées dedans. Il y a la cité, il y a la forme de gouvernement, il y a le citoyen. Comment organiser ces différents aspects? La cité, c'est le tout des citoyens. Le point de vue des constitutions, c'est la forme de ce tout, c'est l'organisation de ce tout. Et au-delà du citoyen, il y a l'homme moral. Donc maintenez toutes ces distinctions, ce que Platon n'a absolument pas fait. Maintenez toutes ces distinctions pour essayer de comprendre un tout petit peu la recherche qu'Aristote fait ici pour savoir qu'est-ce que c'est que le citoyen. Laissant de côté ceux qui acquièrent le titre de citoyen de quelque façon exceptionnelle, par exemple, les citoyens naturalisés, nous dirons d'abord que le citoyen n'est pas citoyen par le seul fait d'habiter un certain territoire. Puisque métèques et esclaves ont en commun avec les citoyens le droit à domicile. Vous avez pignon sur route sur Saint-Jean-d'Arc. Êtes-vous citoyen de Saint-Jean-d'Arc? Enfin, c'est la question de savoir si on est simplement bien habité là. Est-ce que les métèques et les esclaves sont des citoyens? Ne sont pas non plus citoyens ceux qui participent au seul droit politique, leur permettant de jouer le rôle de défenseur ou de demandeur dans les procès, car ce droit appartient aussi aux bénéficiaires de traités de commerce, auxquels on le reconnaît également. Bien plus, en beaucoup d'endroits, les métèques ne participent même pas complètement à ces avantages, puisqu'ils sont obligés de se choisir un patron, de sorte qu'ils n'ont part que d'une manière en quelque sorte incomplète à cette ébauche de communauté. Mais ils sont citoyens à la façon des enfants, qui, en raison de leur âge, n'ont pas encore été inscrits, ou des vieillards qui ont été déchargés de leurs devoirs civiques. Ils sont dans les asiles. Là, c'est aveugle. Au mieux pas qu'ils votent, ils ne savent plus très bien. Et alors, la vie religieuse, en plus de ça, on pourrait mettre les enfants, les vieillards et la vie religieuse. Ils sont en dehors du point de vue civil, du point de vue cité. Et donc, on doit dire qu'ils sont des citoyens en un certain sens seulement. Ce ne sont pas des citoyens au sens tout à fait complet du terme. Vous voyez, c'est intéressant, cette recherche que fait Aristote. Qu'est-ce que c'est que le citoyen? Alors vous avez toutes les définitions qui sont données. La question matérielle, celui qui habite le sol. C'est la question matérielle. La question parfaite ou imparfaite. Il y a des citoyens parfaits, des citoyens imparfaits. Ils ont certains droits, ils n'ont pas tous les droits. Donc il y a une question d'état, de perfection, d'imperfection qui sont dans les citoyens. Mais on spécifiera que les premiers sont des citoyens encore imparfaits et les seconds, des citoyens épassés l'âge de la maturité ou quelque autre désignation ambi analogue. peu importe laquelle. Ce que nous disons, là, étant suffisamment clair. Nous cherchons en effet à définir le citoyen au sens plein, qui ne donne prise à aucune disqualification du genre que nous venons de voir, nécessitant l'addition d'un terme rectificatif, car les difficultés de même ordre peuvent aussi être soulevées et résolues de la même façon au sujet de citoyens frappés d'atimie et ou de peine d'exil. Un citoyen au sens fort ne se définit par aucun autre caractère plus adéquat que par la participation aux fonctions judiciaires et aux fonctions publiques en général. Le citoyen, c'est celui qui participe aux fonctions judiciaires et aux fonctions publiques en général. Or, parmi les fonctions publiques, les unes sont discontinues sous le rapport du temps, de sorte que certaines ne peuvent absolument pas être remplies deux fois par le même titulaire, et que d'autres ne peuvent l'être qu'après certains intervalles de temps déterminés. D'autres, au contraire, peuvent être remplis sans limitation de durée, par lesquelles celles de juges ou de membres de l'Assemblée. On pourrait peut-être objecter que juges et membres de l'Assemblée ne sont nullement des magistrats et que leurs fonctions ne les font pas participer au gouvernement. Cependant, il est ridicule de refuser le titre de magistrat à ceux qui détiennent l'autorité suprême. Mais n'insistons pas sur cette différence. Mais, à votre avis, il recherche. Il essaie de saisir qu'est-ce que c'est que le citoyen. Comment pouvons-nous préciser le citoyen? Mais n'insistons pas sur la différence alléguée. Car c'est une pure question d'appellation. Alors ça, c'est toujours très intéressant. Aristote ne veut pas se battre sur des questions de mots. Les questions de mots ne sont pas philosophiques. Il veut la réalité. Donc, il n'existe pas un juge pour un membre, car c'est une pure question d'appellation du fait qu'il n'existe pour un juge et un membre de l'Assemblée aucun terme commun qu'on puisse appliquer à l'un et à l'autre. Désignons donc, pour marquer la différence, ces deux fonctions du nom global de fonction à durée indéfinie. Dès lors, nous pouvons poser que sont des citoyens ceux qui participent aux fonctions publiques de la façon que nous venons d'indiquer. Telle est donc à peu près la définition du citoyen, susceptible de s'ajuster avec le plus d'exactitude à tous ceux qu'on désigne du nom citoyen. Mais on ne doit pas perdre de vue que les choses pour lesquelles leur sujet d'inhérence diffère spécifiquement, l'un d'eux étant premier, l'autre second, et ainsi de suite, ou bien ne contiennent absolument pas, en tant que tel, le genre commun, ou bien ne le contiennent qu'imparfaitement. Or, nous voyons que les constitutions diffèrent les unes des autres en espèces, et que les unes sont antérieures, les autres postérieures, puisque celles qui renferment des erreurs et des déviations sont nécessairement postérieures à celles qui sont exemptes de défauts. Par conséquent, le citoyen de toute nécessité diffère suivant chaque forme de constitution. Donc, il y a la définition générique du citoyen et la définition spécifique du citoyen selon chaque constitution. Le citoyen est nécessairement lié à telle ou telle constitution et telle ou telle précision de ces constitutions. Mais il y a quelque chose de générique chez le citoyen, c'est que justement, c'est celui qui participe au pouvoir public, aux fonctions publiques, et qui peut participer aux fonctions publiques. Voilà la première définition. Et au fond, c'est celle-là qu'Aristote reprend. Vous ne trouverez jamais chez Platon cette définition du citoyen. Vous voyez tout par rapport à la justice. Tandis qu'au contraire, Aristote voit par rapport à la responsabilité à l'égard du bien commun. Le citoyen, c'est celui qui est capable de porter une responsabilité par rapport au bien commun. En définitive, ça revient exactement au même. C'est peut-être plus précis parce que ça fait intervenir la finalité. Parce que pouvoir participer au bien public, c'est avoir la responsabilité du bien commun. Donc je peux dire que le citoyen, c'est celui qui est capable de porter la responsabilité à l'égard du bien commun. Si vous n'êtes pas capable de porter la responsabilité à l'égard du bien commun, pour telle ou telle raison, vous n'êtes pas citoyen. C'est en ce sens-là que l'esclave n'est pas un citoyen. L'esclave ne peut pas être un citoyen parce qu'il ne peut pas avoir la responsabilité à l'égard du bien commun. Il n'a pas la prudence. C'est toute une question de prudence. C'est toujours la question de la prudence. Le citoyen, c'est celui qui est capable d'être un homme prudent. Vous voyez qu'en définissant de cette manière-là, l'éthique est présente. Quelqu'un qui est absolument incapable d'acquérir la prudence, il ne peut pas être un citoyen. Alors, si on pouvait jauger la prudence de chacun, on pourrait jauger la densité de citoyens qu'il y a dans chacun. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez tout de suite comment, de fait, il y a pour le bon citoyen, le citoyen qui est parfait, ça rejoint l'homme honnête, c'est-à-dire l'homme prudent. L'homme honnête, c'est l'homme prudent. Puisque la prudence est dans l'ordre pratique ce que la sagesse est dans l'ordre spéculatif. C'est une sagesse, la prudence. Mais c'est une sagesse pratique. Et donc le bon citoyen, c'est celui qui est capable de porter toute la responsabilité du bien commun. Participant, capable de participer au pouvoir public. Je crois que c'est cela qu'on doit voir en premier lieu. Alors, il y a au chapitre 4, la vertu du bon citoyen et la vertu de l'homme de bien. Vous voyez, vous avez là ce chapitre qui est très important et qui, je vais vous le lire parce que c'est très caractéristique de la recherche d'Aristote. C'est pour vous montrer que le point de vue éthique est toujours présent dans sa politique. Vous ne pouvez pas abstraire le point de vue politique du point de vue éthique. C'est absolument impossible. Tandis que vous pouvez abstraire du point de vue éthique le point de vue politique. Oui bien, je peux considérer qu'il y a un homme qui est en dehors de la communauté politique, le contemplatif. Donc le point de vue éthique ne dépend pas toujours du point de vue politique. Je peux donc abstraire le point de vue éthique du point de vue politique. Tandis que je ne peux pas abstraire le point de vue politique du point de vue éthique. Ça, c'est capital à comprendre. Hein, parce que ça nous fait comprendre comment le bon citoyen est nécessairement un homme moral. Sauf s'il est bon citoyen du tyran. À la suite des remarques qui précèdent, nous avons examiné si la vertu d'un homme de bien doit être tenue pour identique à celle d'un bon citoyen, ou comme n'étant pas la même. Mais si ce point doit réellement trouver place dans nos recherches, nous devons préalablement nous faire quelque idée sommaire de ce qui constitue la vertu du citoyen. On sait déjà ce que c'est que l'homme de bien, puisqu'on a fait l'éthique avant. Donc on sait à peu près ce que c'est que la prudence. Or, de même que le marin est une certaine unité parmi ses compagnons de navigation, ainsi en est-il selon nous du citoyen. Ils sont grecs, donc les exemples de la marine, c'est les premiers exemples, hein, ils sont toujours là présents. Ce sont des hommes de la mer, les grecs, hein, faut pas l'oublier. La différence entre la Suisse et la Grèce. Hein. La Grèce est entourée d'eau, tandis que la Suisse entoure l'eau. Alors à partir de là, vous avez toute une géographie. Mais c'est pour ça que c'est le prix à intérêt qui change. Et bien que les marins diffèrent les uns des autres par la fonction, l'un est rameur, un autre pilote, un troisième timonier, un quatrième reçoit quelque autre désignation de ce genre, il est évident que la définition la plus précise de l'excellence de chaque marin s'appliquera exclusivement à lui, mais que, également, il y a aussi une certaine définition du marin en général qui s'adaptera à tous. Et toujours genre différent spécifique ou la ratio et le mot douce. C'est analogue, mais c'est sur deux plans différents. Car la sécurité de leur navigation est entre leurs mains à tous, puisque chacun des marins aspire à ce résultat. Évidemment, on est tous embarqués, et dans les sous-marins encore mieux, on est tous embarqués dans le même bateau. Et donc, on doit faire attention que ça ne coule pas, parce que tous, on serait dedans. Il en est par suite de même avec les citoyens. Bien qu'ils soient différents les uns des autres, leur œuvre à tous est le salut de la communauté. Communauté qui n'est autre que la Constitution. Ça, c'est toujours très intéressant à voir ça. Aristote, de temps en temps, identifie la communauté, la Constitution. Et ça, c'est la forme qui définit la réalité. C'est pourquoi la vertu du citoyen doit nécessairement être relative à la Constitution. La vertu du citoyen est relative à la Constitution. La Constitution, la législation de la Constitution, elle est mesurée. Et le citoyen est mesuré par la Constitution. Si donc il y a plusieurs espèces de constitution, il est clair qu'il ne peut y avoir, pour le bon citoyen, une seule et unique vertu, qui est la vertu parfaite. Alors que pour l'homme de bien, nous disons au contraire qu'il est bon d'après une seule et unique vertu, la vertu parfaite. C'est la prudence. Pour l'honnête homme, c'est la finalité. L'homme est honnête quand il aime le bien qui est son bien. Et la vertu lui permet d'être en conformité avec sa fin. La Constitution va jouer pour le bon citoyen le rôle du bien par rapport à l'éthique, par rapport à l'homme honnête. Vous pouvez faire la comparaison, l'analogie. Oui. C'est intéressant, c'est très intéressant, parce que ça nous fait bien comprendre. C'est pour ça que ce livre 3 est très très important, parce que ça nous fait bien comprendre comment, dans la perspective d'Aristote, homme et citoyen, ça sent, ça se tient. Et alors la comparaison, elle est celle-ci, l'homme honnête et celui qui tend vers son véritable bien, vers une véritable fin. Cette fin, elle est double, je vous le rappelle toujours, amour et amitié, contemplation. Le bien séparé, c'est Dieu, c'est l'homme. L'homme en tant qu'ami. Et c'est l'homme. C'est la personne. Le bien que cherche à la personne. Tandis que de notre côté, c'est la Constitution. Mais toute la différence qu'il y a. Alors là, je crois que c'est par là qu'on verrait exactement qu'est-ce que c'est que l'aspect politique pour Aristote. C'est en réfléchissant sur cette analogie qu'il vient de nous donner, qui est très belle du reste. Hein. Alors prenez en plus l'analogie du marin. C'est intéressant de voir ça, parce que c'est ça. Ça éclaire, ça fait comprendre bien ce que c'est, en voyant toutes les différences qu'il y a. Il y a une analogie entre les deux, mais le marin a une fin particulière, une fin spéciale, c'est pas la fin humaine. Si donc il y a plusieurs espèces de constitution, il est clair qu'il ne peut y avoir, pour le bon citoyen, une seule et unique vertu, qui est la vertu parfaite, alors que pour l'homme de bien, nous disons au contraire qu'il est bon d'avoir... d'après une seule et unique vertu, la vertu parfaite, la sagesse ou la prudence. Qu'ainsi donc, il soit capable d'être un bon citoyen sans posséder la vertu qui nous rend homme de bien, c'est là une chose manifeste. Première constatation, être un bon citoyen et un homme de bien, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux mesures différentes. D'un côté, c'est la constitution, d'autre côté, c'est la finalité. Donc la première chose qu'Aristote montre, c'est qu'il y a deux choses différentes. La politique et l'éthique sont deux choses différentes. On ne les identifie pas et on ne peut pas les identifier. D'un côté, il y a l'unité. Et de l'autre côté, il n'y a pas d'unité. C'est très vrai, l'aspect politique est multiple. Et c'est pour ça que l'aspect politique, c'est un tout. Tandis que l'aspect de l'éthique, c'est la personne. La personne, elle est bien un tout, mais elle a une unité beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde que le tout politique, que le tout de la communauté. La personne, elle est complexe, mais elle est une. Alors, il y a une unité beaucoup plus profonde en éthique qu'en politique. Et c'est ça que ça fait rager Aristote quand Platon cherche l'unité en politique. C'est faux. En politique, on ne cherche pas l'unité, on est dans la multiplicité. On est en face d'une mesure, les constitutions qui mesurent. Mais c'est beaucoup plus complexe. Et donc, on ne peut pas chercher en politique la même unité qu'on cherche en éthique. En éthique, c'est la personne. Et la personne a une unité beaucoup plus profonde que l'unité politique. Donc il faut bien voir ça. Ça c'est très important à bien dire, voir que tout de suite Aristote, la première chose qu'il fait, c'est de distinguer les deux. On distingue les deux. Autre chose est un bon citoyen, autre chose est être un homme honnête. Cependant, tout de suite, cependant, il est possible que par une autre voie encore, de reprendre l'argument qui précède en se plaçant sur le terrain de la constitution idéale, parfaite, la meilleure, avec les raisons pour et contre. S'il est en effet impossible qu'une cité soit entièrement composée de gens de bien, et s'il faut néanmoins que chaque citoyen accomplisse correctement la tâche qui lui est dévolue, ce qui ne peut être que l'effet de sa vertu, alors, étant donné qu'il est impossible que tous les citoyens soient semblables, il ne saurait y avoir une seule vertu pour le bon citoyen et l'homme de bien. Car la vertu du bon citoyen doit appartenir à tous, c'est nécessairement de cette façon-là seulement que l'État sera l'État idéal. Or, il est impossible que tous possèdent la vertu de l'homme de bien, à moins d'admettre que dans le bon état dont nous parlons, donc l'état le plus parfait, tous les citoyens sont nécessairement vertueux. L'argument pour montrer qu'il peut y avoir une unité du côté éthique et que cette unité du côté éthique ne doit pas être reprise du côté politique. Très important. Voyez, ça ferait une moralisation de l'État. Il ne faut pas moraliser l'État, mais il faut reconnaître que le citoyen implique un aspect moral. Il ne faut pas le moraliser. C'est la même chose pour une communauté religieuse. Il faut admettre, ils ne sont pas tous des saints, mais ils tendent tous vers la sainteté. Ils tendent tous vers la sainteté. Alors il y en a qui sont encore très dans les douves, n'est-ce pas ? Et puis il y en a qui sont déjà beaucoup plus élevés. Mais ils s'étendent tous vers la sainteté, il faut accepter. Vous voudriez faire une communauté de saints. Je suis sûr que vous n'arriveriez pas. On ne peut pas. On ne peut pas faire une communauté de saints. On ne peut pas faire une communauté de bons citoyens. Ce serait impossible. Il faut accepter la matière telle qu'elle est donnée. C'est l'idée des très anciennes, n'est-ce pas, en disant il y a des corps de bronze, il y a des corps d'argile, il y a des corps d'or, il y a des... c'est un peu matérialiser la chose, mais c'est vrai, c'est de reconnaître que dans l'espèce humaine, il y a une telle diversité que dès qu'on est au niveau politique et qu'on est en face du tout, il faut reconnaître qu'il y a une très grande diversité. Un autre argument, puisque l'État est formé d'éléments dissemblables, de même qu'un être vivant est composé en première analyse d'une âme et d'un corps, et l'âme à son tour de raison et d'impulsion, qu'une famille est formée d'un homme et d'une femme, et que le droit de propriété suppose un maître et un esclave. C'est de la même façon aussi qu'un État est composé de tous ces divers facteurs, en y ajoutant encore d'autres éléments constitutifs qui sont d'espèces différentes. Dans ces conditions, il s'ensuit nécessairement que la vertu de tous les citoyens n'est pas la même. Tout comme dans une chose, tout comme dans un cœur, l'excellence d'un coryphée n'est pas la même que celle des coreutes qui l'assistent. Qu'ainsi donc, il n'y ait pas d'une façon générale identité des deux vertus dont nous parlons. Cela résulte manifestement de ce que nous venons de dire. Mais enfin, ne pourra-t-il pas se faire que la vertu d'un bon citoyen déterminé soit la même que celle d'un homme de bien ? Alors, la diversité est nette. Aristote donne trois arguments successifs. Mais il se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas possibilité quand même de dire qu'à un moment donné, être bon citoyen et être un homme honnête, c'est la même chose. Vous voyez, la grande question, c'est très très intéressant ça. C'est au fond rejoindre Platon par le citoyen. Pour Platon, la justice du citoyen et la justice de l'État sont les mêmes. Mais il parle de l'aspect politique pour rejoindre l'aspect élémentaire. Aristote parle de l'homme pour rejoindre l'autre. C'est une démarche totalement différente parce qu'il part de l'homme. C'est l'homme qui est vertueux, et c'est l'homme qui est honnête, et c'est l'homme qu'on doit regarder en premier lieu. Donc voilà la grande question. Et ça, c'est la grande question, je crois que c'est la question qui commande toute la politique. Parce que c'est la question pour un homme, pour un philosophe qui a commencé par regarder l'éthique politique, qui regarde ensuite l'aspect politique, comment essayer de joindre les deux, l'aspect du conditionnement et l'aspect de la finalité. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de voir que le conditionnement, dans la mesure même où il est bon, rejoint la finalité ? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de voir les deux, de voir une harmonie profonde entre les deux ? Ou est-ce que vous êtes obligé d'accepter une diversité ? On pourrait faire des analogies très intéressantes avec le point de vue psychologique et le point de vue philosophique. Le philosophe regarde les principes et la fin, le psychologue regarde le conditionnement. Est-ce que nécessairement il y aura une lutte tout le temps ? Ou est-ce qu'il y a au contraire quelque chose qui permet de dire « Ah, on tend vers la même unité. » Et donc, il y a quelque chose qui unifie. Oui. Ce serait tous les domaines où on verrait le conditionnement et la finalité qui peuvent se heurter, qui peuvent quelquefois s'opposer, c'est évident, à certains moments, il peut y avoir comme une espèce de lutte entre les deux, entre l'homme honnête et l'homme politique. Quand on est embarqué dans une politique tyrannique, on peut pas employer d'exemple immédiat, hein, quand on est embarqué dans une politique soviétique, il peut y avoir des hommes honnêtes. Et jusqu'où ces hommes honnêtes peuvent-ils rester des hommes honnêtes et rester de bons citoyens ? En tant que le citoyen se définit par la Constitution. Alors est-ce qu'on doit nécessairement s'écarter ou pas s'écarter ? Ou au contraire, essayer de jouer le jeu le plus longtemps possible ? C'était les conflits entre les chrétiens et le point de vue romain, et l'armée romaine. Jusqu'où pouvons-nous rester chrétiens et rester dans l'armée romaine ? jusqu'où pouvons-nous rester chrétiens et être embarqués dans telle ou telle orientation d'ordre de pure efficacité, de recherche, d'armement militaire, de construction d'armement militaire. Oui, toutes ces choses qui peuvent montrer le conditionnement et la finalité. Alors, c'est très important de voir ça. Je crois armement militaire dans le sens d'armes, vous voyez, des armes destructives d'une façon telle que, d'une certaine manière, ça dépasse l'armée. C'est ça là le point de vue très délicat. Jusqu'où une arme reste-t-elle une arme défensive ou une arme destructive au sens le plus absolu? Quand on détruit tout, ce n'est plus une arme défensive. Alors, le problème, c'est toujours des problèmes limites. Hein. Alors, c'est intéressant de voir comment Aristote pose ici le problème. Mais enfin, ne pourra-t-il pas se faire que la vertu d'un bon citoyen déterminé soit la même que celle d'un homme de bien? Nous répondons que le gouvernement qui est bon est vertueux et prudent. Alors que le gouvernant qui est bon est vertueux et prudent, alors que le simple citoyen n'est pas nécessairement un homme prudent. Voilà, sa première approche que fait Aristote, c'est par la tête qu'il le regarde. Le gouvernant qui est bon, un bon gouvernant, cherchez un bon gouvernant, le gouvernement qui est bon est vertueux et prudent. S'il est bon, gouvernant, il est vertueux et prudent. Alors que le simple citoyen du coin n'est pas nécessairement un homme prudent. Et on prétend même parfois que l'éducation d'un gouvernant doit être dès le début différente de celle d'un citoyen. Comme effectivement, nous voyons les fils des rois instruits dans l'équitation et les exercices militaires. On connaît le mot de Ripide, « Loin de moi les arts de pur agrément, mais seulement ceux dont l'État a besoin. » Voulant dire qu'il existe une éducation particulière pour un gouvernant. Vous savez, tous ces problèmes qui sont toujours actuels, hein, l'école publique. En grand titre aujourd'hui, Mitterrand a trahi l'école publique. C'est dans le Figaro d'aujourd'hui. Grand titre. Et si la vertu d'un bon gouvernant est la même que celle d'un homme de bien, et si le gouverné est un citoyen aussi bien que le gouvernant, la vertu d'un citoyen en général ne saurait être la même que celle d'un homme de bien. Ah, il tourne autour, hein. Alors ça, c'est la difficulté, on voit très très bien. C'est la différence entre celui qui gouverne et celui qui gouvernait. Celui qui gouverne, si c'est un bon qui gouverne, un bon gouvernant, un homme politique qui doit gouverner, s'il est bon, il doit être prudent. C'est impossible autrement. Celui qui obéit, le citoyen, il peut être un bon citoyen sans être un homme prudent. Il obéit. Bouton de panneau, on a toujours fait comme ça. La mère prieure du Carmel en face de la police. Exactement la même chose. Sans avoir suffisamment de sens par rapport à ce que représente une situation tragique. Qui fait qu'à ce moment-là, on gouverne autrement. C'est ça le point de vue. C'est ça, tragique. Hein. C'est que les braves gens se laissent prendre. Alors que, de fait, on doit faire attention quand on est en face d'une situation tragique, on doit être prudent d'une autre manière. Et être prudent d'une autre manière, c'est la prudence militaire, c'est la prudence en cas de guerre. C'est autre chose, c'est plus la même prudence. C'est très intéressant hein, d'essayer de saisir ce qu'est la vertu de prudence de celui qui gouverne et de celui qui est gouverné. Et c'est ce qu'il souligne ici. Et si la vertu d'un bon gouvernant est la même que celle d'un homme de bien, ça, on comprend ça. Et si le gouverné est un citoyen aussi bien que le gouvernant, tous les deux sont citoyens, la vertu d'un citoyen en général ne saurait être la même que celle d'un homme de bien. Quoique celle d'un citoyen déterminé, celui qui gouverne, puisse l'être, puisque la vertu d'un gouvernant n'est pas la même que celle d'un simple citoyen. Ce n'est pas la même chose de gouverner et d'être gouverné. Et la vertu de celui qui gouverne et celui qui est gouverné, ce n'est pas la même vertu. Et donc, tous les deux sont des hommes, pourtant. Alors, vous voyez le point de vue, c'est très facile à comprendre. Vous avez deux situations différentes. La situation de celui qui gouverne, donc celui qui commande, celui qui est commandé, qui exécute. Ici, nous sommes en droit du citoyen. Citoyen numéro 1, citoyen numéro 2. Hein? Le citoyen qui exécute, c'est celui qui est ordonné à l'autre. Et tous sont des hommes. Si la vertu du citoyen qui commande est la même que celui de l'homme bon, vous voyez tout de suite que la vertu de celui qui exécute n'est pas la même que celui qui commande. Et tous les deux sont des citoyens. Et c'est pour ça que la vertu de celui qui exécute, bon citoyen en tant qu'il exécute, n'est pas la même que la vertu de l'homme bon. Petit raisonnement que donne Aristote. Et c'est très joli ça. Parce que ça montre bien que là, le point de vue politique est différent du point de vue moral, éthique. Mais cependant, le point de vue éthique est nécessaire à l'aspect politique. Puisque celui qui commande